Le temps qu'il s'installe, je vais introduire un illustre inconnu, vu qu'il s'agit de Pierre Rabaud, qui est postdoctorant au centre d'études supérieures de la Renaissance, qui est ingénieur de recherche au sein de Peintre, donc vous avez forcément, à toutes les journées. Qui, lui, s'intéresse plutôt donc, à une analyse historique du mouvement punk, alors à la base en Suisse, en Allemagne et en France, mais qui s'intéresse aussi à tout ce qui est donc manifestation dans la culture actuelle. Il aime le pain, le fromage, il aime le pain, le fromage et le foot. Et il m'a sauvé la vie une fois, mais ça, c'est pas important. Donc, il va nous faire une intervention sur l'authenticité du punk. Sa supposée authenticité ou pas, et pourtant la valeur qu'il peut avoir, donc dans une intervention qui a pour sous-titre « Sens, fonctions et limites de l'authenticité dans la scène punk ».
Alors bonjour à tout le monde, donc, on va continuer un peu ce panel du matin avec une séance introductive. Donc moi j'ai voulu essayer vraiment de penser à cette présentation comme une réflexion un peu conceptuelle sur cette notion d'authenticité, parce que c'est vraiment une notion qui revient très souvent et qui est finalement jamais définie. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par authentique? Donc voilà, alors qu'il rejette toutes les formes et les codes à respecter, le punk, il n'en fait pas souvent référence, n'en font pas moins souvent référence à des modèles à suivre. Et pour assurer leur légitimité, pour critiquer un concurrent, les punks font justement souvent appel à un punk authentique. Donc ma présentation, elle va vraiment viser à cerner ce que signifie cette authenticité. Je vais commencer par déconstruire cette notion en montrant les différents éléments problématiques qu'elle implique, notamment quant à la vision de l'histoire du punk, mais aussi le lien avec les autres mouvements et la question de l'hybridité qui est au cœur de la journée aujourd'hui. Et pour autant, l'authenticité, elle joue bel et bien un rôle important dans le fonctionnement et l'identité du punk, qui en charriant certaines valeurs. Et donc, dans un deuxième temps, je vais aussi m'intéresser à la fonction de l'authenticité dans la scène punk. C'était mon plan. Donc, le punk semble a priori devoir échapper à la catégorie d'authenticité. À la base, cette notion a été élaborée pour désigner une œuvre dont l'origine est reconnue. Elle implique alors la valorisation de l'original. Or, le punk a toujours prôné le caractère dérisoire de telles considérations, prônant des productions culturelles, jetables et reproductibles. Les fanzines eux-mêmes sont produits à partir de photocopies qui peuvent être refotocopiées et reproduits. Et pour autant, on peut aujourd'hui pondérer cette position, l'entrée du punk dans, d'un côté, le panthéon musical et aussi l'histoire de l'art, a fait que les productions punk originales, elles sont désormais recherchées par les collectionneurs et parfois échangées à des prix importants, comme on voyait sur l'illustration que j'avais mis avec mon titre d'un blouson crasse vendu extrêmement cher, et ce qui implique que le punk aujourd'hui, il n'échappe pas totalement à cette conception de l'authenticité. Mais l'authenticité, elle a aussi un autre sens qui nous intéresse plus quand on parle du punk, c'est celui d'une valeur morale, et elle occupe vraiment alors une place centrale au sein de la scène punk. Le punk revendique fréquemment l'authenticité dans le livre Punk Rock So What, qui avait vraiment pour ligne éditoriale d'apporter un regard sur l'héritage du punk. Les auteurs, dans l'introduction, le définissaient comme « the most authentic, the most real form of pop ». Et l'adjectif vraiment authentique est là, et il est aussi convoqué par des musiciens eux-mêmes, et, ainsi que par leur public, ainsi qu'un membre des Beurriers Noirs explique dans le fanzine Beerat & Co. en 85, « il faut faire les choses sur le vif, et c'est plus réel, plus authentique ». Tandis que la revue de l'album Macadam Massacre dans le fanzine Elfazine reprend le terme en disant « un LP extrémiste mais ô combien authentique, tiens, ça me rappelle 77 ». Cette dernière citation, elle indique le lien qui existe entre authenticité et passé. L'authenticité constitue un appel aux valeurs morales, la recherche d'une voie d'accès au vrai et à l'origine. Selon ce discours, le punk aurait été authentique autrefois ou autrement. Les pratiques culturelles y auraient été à la fois plus pures et plus réelles, plus fortes et plus quotidiennes. L'authenticité constitue en fait un enjeu central à la fois pour l'approche historique de toute production culturelle et pour les débats entre les différents acteurs et actrices à propos de la signification d'un genre musical qui est vraiment toujours en débat. Cette notion elle a fait l'objet de nombreux écrits critiques au sein de l'anthropologie. Donc, Céline Cravatte elle explique ainsi que l'authenticité elle sert à valoriser et mettre en récit un passé et un ailleurs construit, et ce notamment dans l'économie du tourisme. tandis que les travaux de l'historien Eric Hobsbawm, quand il travaille sur l'invention de la tradition, il avance lui aussi que la plupart des traditions se présentent comme anciennes, elles sont en fait le résultat d'inventions récentes. Et vraiment, ces théoriciens, ils ont en commun de vraiment montrer que l'authenticité n'existe pas comme telle, mais que c'est toujours une construction culturelle. Et le sociologue Richard Peterson a montré que ces observations, elles étaient particulièrement pertinentes quand on évoque l'histoire de la musique. À travers l'exemple de la musique country, il montre que c'est suite au succès d'artistes ruraux que vraiment les producteurs, ils ont eu cette impression que le profond attrait pour ces formations-là, elle provenait de l'authenticité. Et donc, ils vont tenter de reproduire ces spectacles vraiment avec de la reconstitution historique. Et donc, avec vraiment ce genre musical, on voit vraiment à quel point l'authenticité, c'est vraiment pas un synonyme de vérité historique. Au contraire, elle est fabriquée. Là, je vous mets une citation de Richard Patton qui dit « L'authenticité n'est pas un trait inhérent à l'objet ou à l'événement que l'on déclare authentique. Il s'agit en fait d'une construction sociale, d'une convention qui déforme partiellement le passé. » Et donc, sur l'illustration, on voit en haut le groupe original tel qu'il jouait dans les premiers concerts. Et suite à la vague de la musique country, comment ils ont été vraiment déguisés en hillbilly pour faire authentique. Donc l'authenticité, elle a un passé inventé, mettant en avant des normes et des conventions évoquant ce passé mythique pour imposer une certaine conception d'un genre musical. Donc par le récit de l'authenticité, ainsi proposer une vision aveugle, voire faussée du passé. En effet, il n'existe pas et n'a pas existé de punk authentique, une nature punk originelle libérée de toutes les dépravations de la récupération politique, commerciale ou morale. Et la question de l'authenticité, elle s'intègre également au processus de légitimation à l'œuvre au sein de la scène punk, qui est une thématique qu'on a vue aussi sur plusieurs journées, notamment cette année. À travers la notion d'authenticité, sont valorisées des premières années de la scène et certaines valeurs qui leur sont supposément associées. Il s'agit d'un débat sur qui seraient les individus qui connaîtraient le mieux cette origine, qui seraient légitimes pour s'inscrire dans cet héritage culturel. L'invocation d'un punk authentique sert à distinguer les vrais punks des faux, les puristes des fans poseurs, en se réclamant d'une origine. Cette origine est celle du punk d'avant la récupération ou d'avant le ramollissement. L'authenticité incarne ici la lutte autour de la définition de ce qu'est le punk, original par ses propres acteurs à travers la référence donc à un temps perdu et idéalisé, celui du vrai punk différencié d'un punk dévoyé. Et on se rapproche ici sur des questions de capital subculturel tel qu'elle a pu le développer Sarah Thornton sur le milieu des raves. Donc selon elle, c'est que loin de s'éloigner des hiérarchies, les scènes reproduisent des formes de lutte et de domination pour un capital subculturel. Et ici, l'authenticité serait aussi le moyen de reconstruire des hiérarchies au sein de la scène punk pour savoir qui serait plus authentique que les autres. Et puis pour en venir maintenant à une des thématiques de la journée, l'authenticité, elle est également problématique au regard de l'hybridité, parce qu'elle stipule une essence pure du punk, une origine sans tache de ce mouvement. Et Émilie Dallage, spécialiste des industries culturelles, elle a insisté sur cet aspect dans le cas de la construction des répertoires de musique africaine authentique. Elle a aussi une petite citation. La principale caractéristique de l'authenticité réside dans la pureté de l'expression culturelle ou artistique représentée. Il faut que la musique appartienne totalement à la culture dont elle est issue. Donc dans le cas du punk, c'est la musique de cette époque, donc celle d'une époque encore pure, ses productions n'étant pas encore détériorées par leur commercialisation ou leur poétisation selon les points de vue. Donc juste pour aussi citer les sources ici, l'illustration, c'est donc la couverture d'un fanzine zurichois, Brechise de 1980. Voilà, c'est l'historien qui parle. Et donc pourtant, cette pureté qui est justement stipulée dans l'authenticité n'a jamais vraiment existé. La révolte punk n'a jamais été dépourvue de pratiques qui répondaient à différents enjeux comme la volonté de se divertir, d'avoir du bon temps ou même d'être cool. Et la récupération et la marchandisation, elles ont été présentes dès les premières années du punk, notamment en France. Voir ici toutes les principales formations, même celles qui ont commencé sur des petits labels, ils ont ensuite passé sur des majors, donc on a Stinky Toys et Guilty Risers qui sont chez Polydor, les Dogs de Rouen qui vont passer de Melody Massacre aux Hollandais de Philips en 79, Star Shooter chez EMI, Pat et Marconi, et puis Bijou chez Philips et Little Bulb Story qui ira aussi temporairement chez les Américains de RCA. Et donc c'est juste ça, un petit exemple pour montrer à quel point même quand on fait cet appel à un passé mythique, même dans ces premières années du punk, il y a déjà des moments de de commercialisation des dynamiques contradictoires. Le punk a toujours été ce mélange de révolte radicale et d'entreprise commerciale. Et pour donner un exemple issu d'un autre pays aussi, dans les toutes premières années du punk en Allemagne de l'Ouest, il est dès 78 sur les couvertures des magazines pour adolescents, notamment Bravo, qui va faire vraiment des couvertures sur le punk à côté d'ABBA et John Travolta, et faisant des articles intitulés « Le punk pour le plaisir et le délire, nos conseils de mode pour votre soirée punk ». Et donc voilà, donc on voit que ces ambiguïtés, elles existent depuis le départ. Donc plus que de méconnaître les limites et les ambiguïtés de ce mouvement, l'authenticité, il développe une vision mythique d'un objet et lui confère des qualités idéalisées. Donc l'authenticité invente un espace aux frontières strictes, sans hybridité, des punks au sang pur, une terre inviolée qui n'a jamais existé. Et le punk, particulièrement lors de ses premières années, a toujours été hétéronome, comme on l'a mentionné juste avant. Il a échangé avec d'autres sous-cultures sans qu'il existe de véritable délimitation. C'est ce qu'on va voir un peu aussi tout au long de cette journée. Et l'identité du punk, sa signification sociale, ses pratiques se sont construites à travers des luttes entre différentes tendances contradictoires et ambivalentes en fonction des enjeux propres à chaque situation concrète. Le punk authentique, c'est une construction dont se servent justement ces différents acteurs et tendances dans les luttes de légitimité. Richard Peterson avait justement insisté sur ce caractère de lutte permanente de la fabrication de l'authenticité. Ainsi, selon lui, je le cite, l'infidélité historique s'y construit à travers une série d'interactions et d'ajustements successifs entre des intérêts commerciaux d'un côté et un public de l'autre, et que jamais aucune des parties n'est en mesure d'imposer à l'autre sa définition de l'authentique. Et les recherches sur le punk, à mon avis, elles mettent justement en évidence le fait que le punk se construit bel et bien à travers une lutte entre différentes interprétations. Au sein de l'hétérogénéité de la scène punk, différentes tendances luttent pour s'imposer comme mode dominant du punk, qu'à leur tour les industries tentent de s'approprier en le reformulant. Et après avoir critiqué l'authenticité jusqu'à maintenant, je vais finir par montrer comment cette dimension, elle revêt bel et bien un rôle important dans la scène punk. S'il faut prendre en compte ces aspects problématiques et les étudier avec recul, l'authenticité, elle nous permet quand même de mieux comprendre le fonctionnement et l'histoire du punk. J'ai affirmé tout au long de la présentation que le punk authentique était un mythe, mais dire cela, ça ne signifie pas que c'est un mensonge. Un mythe, c'est quelque chose qui avance une histoire inventée, mais surtout, c'est quelque chose qui a une efficacité sociale. Le mythe transmet des valeurs, ce dont il parle n'existe peut-être pas, mais il fonctionne. Donc si le punk authentique n'existe pas, la scène punk s'organise et se confronte bel et bien autour de cette notion. L'authenticité, comme j'ai montré au tout début, elle est constamment revendiquée et contestée. Tel groupe est rejeté parce qu'il ne serait pas authentique, tandis que certains en appellent à un retour à un punk authentique. Si ce genre de lutte il est finalement présent dans de très nombreuses pratiques culturelles, il se retrouve vraiment particulièrement au sein du punk, du fait notamment de son appel à une essence du rock, de son refus affiché, même si pas toujours assumé, de toute forme de récupération, d'institutionnalisation ou de starification. Le punk réclame l'authenticité comme éthique. Dans la musique, le musicien doit chanter ce que son public ressent avec ses mots. L'authenticité convoque ici des valeurs telles que celles de vérité, de spontanéité, de véracité, une vérité en phase avec la matière rugueuse du monde qui en énonce avec simplicité les conditions de vie. Donc il s'agirait vraiment, dans le punk, de l'authenticité, ce serait une expression directe des émotions personnelles de la scène et qui serait en commun direct avec le public. Et ça, c'est tellement au cœur de la scène punk que même des groupes qu'on pourrait penser totalement en dehors de cette réflexion-là, parce que c'est du punk commercial, vont eux aussi faire appel à ces valeurs d'authenticité. Et si je vais mettre un exemple, mais c'est un clip du groupe Sum 41, donc ceux qui ont ma génération s'en rappellent, les plus jeunes ont peut-être avec chance oublié, les plus vieux passer à côté.
Listen, I gotta go. I think I'm about to be mugged. Hey guys, yeah, hey, how you doing? Have a seat. Take it easy on those chairs, Corinthian leather.
Have you heard the new album?
No, I haven't heard the new album. I'm sure it's great. All sorts of songs about skateboarding and getting dumped.
Yeah, I love this one here.
Listen, the reason I called you guys in here, your name, Sum 41, the number band thing is out, okay? Blink-182, Green Day 75, these names are not cool. What's in now is the okay? Yeah. The Strokes, the, I can't see you, the Vines, the Hives, the White Stripes. So this isn't new. Yeah. The Led Zeppelins, right? Are you feeling me? Guys, check this out. The Sums.
Okay.
The Sums. What's in now is the... drinking your beer and smoking. You guys smoke?
No.
Yeah, you do now. You like that? Smoke them up, Johnny. What's your name?
Derek.
Not anymore, it isn't. It's Sven. You like it? It's great.
I guess.
I don't know.
It's great.
I guess so.
Give it a go.
Sums? So am I
still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason. Can't find hope to believe in. Ouais, on va peut-être s'arrêter là. Donc vraiment, c'était pour montrer l'exemple que ici, on a vraiment un groupe qui est, c'est déjà son deuxième album en 2002, donc un grand groupe de punk commercial. Il y a vraiment un appel à ces valeurs d'authenticité, de vraiment une présentation pour mettre en contexte. C'est un moment où il y a les groupes qui sont un peu à la mode, c'est justement les Strokes, tous ces groupes en The, mais qui, à mon avis, n'ont jamais autant vendu que Sum 41, même les Strokes, qui est un des groupes les plus connus de cette vague-là. Et ben, pour critiquer ça, ils vont mettre en valeur ces valeurs d'authenticité qui sont mises ici vraiment avec cette... l'inauthentique, c'est les industries culturelles qui vont imposer des postures mensongères. Ici, fumer des clopes alors qu'en fait on fume pas, changer de nom. Tandis que le punk, c'est l'authenticité, c'est les gens qui sont vraiment eux-mêmes. Donc voilà, ces valeurs, elles renvoient à tout ce qui échappe à la culture dominante ou au marché. L'inauthentique, c'est vraiment le domaine de l'industrie de la consommation et de la communication. La revendication de l'authenticité, c'est une revendication de supprimer les intermédiaires dans les pratiques culturelles. Et à mon avis, c'est aussi une façon de faire un lien direct entre musiciens et public, sans distance de star, sans industrie culturelle. Et on retrouve ici la logique du do-it-yourself, le fais-le-toi-même, qui est au cœur des pratiques punk, qui appelle vraiment chacun à créer son propre groupe au magazine. La production de la culture, elle devrait chercher l'autogestion pour échapper aux industries culturelles en créant ses propres institutions, qu'il s'agisse de salles de concert, de magazines ou de labels. Et vraiment, ces différentes considérations, elles permettent de comprendre historiquement pourquoi le punk qui émerge à la fin des 70 a ce besoin d'authenticité. Parce que c'est vraiment un moment, une période où le monde musical est vraiment caractérisé par le poids des intermédiaires, avec une industrie musicale qui est fortement centralisée et des codes dominants qui valorisent la sophistication et la virtuosité, notamment dans le glam. Et il faut savoir qu'à la fin des années 70, les principaux labels, ils concentrent vraiment près des deux tiers des albums, par exemple, distribués en France. Et c'est que jusqu'à la fin des années 70 que des firmes moyennes, notamment des firmes moyennes françaises, elles gardent un certain poids dans l'économie du disque. Mais face à l'oligopole des majors qui est mis en place dans les 60 autour de Barclay, Pathé, Philips et Vogue, mais vraiment au moment où le punk émerge, ils vont vraiment assurer une domination encore plus forte à ce moment-là. Et donc pour conclure, à l'instar de ce que disait Eric Hobsbawm par rapport à l'invention des traditions, les traditions punk authentiques sont inventées, mais elles servent à construire une unité et une identité au moment de la constitution des scènes. Selon l'historien, ces traditions, elles avaient plusieurs fonctions. Elles servaient à apporter une cohésion sociale, elles renforçaient la légitimité d'acteurs ou d'institutions au sein de la scène, et elles socialisaient certaines valeurs. Donc c'est vraiment ça le rôle du punk authentique, c'est de créer une cohésion dans la scène, de donner de légitimité, mais aussi d'amener certaines valeurs qui sont celles de l'autoproduction, de la spontanéité et du lien direct avec le public. Mais il ne faut pas oublier que cet appel à l'authenticité, il peut prendre différents sens. Si les plus fréquents de ces appels à l'authenticité, ils évoquent les effets de marchandisation, d'autres, ils peuvent voir dans le punk authentique un tout autre punk qui serait celui de la pure expérimentation, de la pure déconne, déconnecté de tout discours politique tel qu'il pourra se développer en France à travers le rock alternatif. Donc ça souligne une fois de plus que si l'authenticité, elle fonctionne, l'analyse historique, elle doit toujours en montrer son caractère construit et conflictuel. Comme l'avançait l'historien Moses il Finlay par rapport à la fonction des mythes dans la Grèce antique, il ne faut pas oublier que ces mythes ne se contentent pas de transmettre le passé, ils le créent. De même, l'authenticité transmet un passé créé en fonction de différents intérêts. Elle permet de diffuser des valeurs et un héritage, mais il faut toujours garder en tête cette fonction performative de l'authenticité. Merci.
Alors, merci pour cette intervention très bien construite et qui a rappelé judicieusement les trois thématiques, les trois thèmes importants de la journée.
Voilà, merci pour cette intervention. J'aurais une question. À un moment, tu as parlé de la relation en fait entre le chanteur ou le groupe de musique et le public. Et tu as dit que le chanteur chante ce que le public ressent. Ou je ne sais pas si c'était une citation ou je ne sais plus. Et en fait, je me suis demandé simplement si le rapport n'était pas quelque part inverse. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le public qui va vers la musique, soit pour être conforté dans son identité musicale, soit donc pour être conforté ou confronté à l'inverse par rapport à son identité musicale. Et en fait, cette question, elle rejoint la question de l'authenticité, c'est-à-dire que est-ce qu'on va vers ce qui est authentique ou est-ce qu'on va se confronter à quelque chose ou s'y conforter pour construire quelque chose d'authentique, finalement.
Pense en le punk, il y a vraiment comme valeur ce lien public-groupe, c'est l'idée qu'il n'y aurait plus de différence, c'est que tout le monde... Ça, c'est l'idéal, c'est-à-dire que tout le monde pourrait monter son propre groupe. Et aussi, alors que il y avait cette vision du musicien virtuose qui est vraiment séparé, intouchable, juste là pour être pris en photo à la fin des concerts, là, c'est l'absence de distance avec aussi, d'un point de vue simplement l'organisation des concerts, une scène qui devrait être directement dans la fosse, aussi les pratiques qui consistent voilà, à cracher sur les musiciens pour montrer qu'il n'y a plus cette cette façon de se prosterner devant les musiciens et un lien direct. Donc dans l'idéal, tout le monde serait lui-même membre d'un groupe punk, qui fait que en fait on s'échange juste les places à des moments. Ça, c'est l'idéal, mais évidemment qu'il y a des distances. Donc après, à savoir qui je pense que c'est un contrat qui est dans les deux sens, c'est-à-dire que le musicien, il doit, dans certaines scènes punk, il y a cette volonté d'essayer de retranscrire ce qu'est la condition même des gens qui font son public, avec souvent l'importance de chanter dans la langue locale. Par exemple, c'est le cas pour le punk suisse, avec les dialectes bernois, zurichois, qui vont être utilisés par les groupes punk locaux. Et puis aussi, si on prend le cas de l'Angleterre, voilà, toutes ces choses qui sont très connues sur un parler... avec un accent en prolétaire pour vraiment faire cette connexion directe avec le populaire. Et puis voilà, donc ça, c'est d'un point de vue du groupe. Et puis de l'autre côté, d'un point de vue du public, et aussi voilà, cette idée de plus être dans la prosternation, donc cet échange direct. Et sur la deuxième question, moi j'apprends que l'authenticité, en tout cas, dans les 70, au début de l'émergence du punk, tout le monde quand même la recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas personne qui dit « Ah, je vais à ce truc, ben, je crois que c'est pas authentique et je vais essayer de la construire après », mais c'est plutôt définir comme authentique ce qu'on considère qui nous correspond et correspond à nos valeurs. Donc, vu que c'est une construction, c'est dans ce même mouvement-là. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à ta question.
En fait, ça part de la même remarque que la personne qui a parlé juste avant. Moi, en fait, si j'ai bien compris ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à ça, par rapport au fait que le groupe qui chante, la personne qui chante, enfin le groupe, en gros, doit reproduire, enfin émettre les sentiments qui sont censés être partagés par le public, enfin, c'est son expression. Pour moi, ça marche avec tous les courants de musique. Et ça c'est lié à l'authenticité, et ça me fait penser à ce que disait Natacha tout à l'heure par rapport au jazz ou... Enfin, à tous ces courants-là qui sont liés à ça. Et en même temps, alors là, je vais peut-être un peu loin, mais je pense que quelqu'un qui va écouter Céline Dion va trouver quelque chose d'authentique et va penser que ses sentiments sont reflétés également. Quoi. Enfin, je vois. C'était juste des idées comme ça. En fait, j'ai pas une question précise.
Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'authenticité, c'est une notion qui traverse l'ensemble des musiques populaires ou de la musique pop. Toute chanson pop de l'art, c'est, il y a une promesse de de vérité ou une promesse de comment dire ouais, de donner, voilà, donner un accès à quelque chose qui est direct. Voilà, quand on écoute Céline Dion, on pense que c'est directement les émotions de Céline Dion qu'elle partage avec nous et qu'on ressent nous-mêmes comme elle à son déplacement. Donc effectivement, ça existe dans tous les éléments, mais je pense que quand même le punk l'a vraiment thématisé en vraiment le verbalisant très très souvent, et aussi du fait voilà d'un moment où cette authenticité dans la musique pop était quand même mise en danger du fait d'une ultra starification du système à ce moment-là. Et ouais,
je crois que c'est des questions plus sensibles dans le punk, parce que on le voit pendant les journées des thunes, les acteurs qui disent c'est du vrai punk. Je suis pas sûre que les fans de Céline Dion disent il n'y a que Céline Dion qui soit de la vraie chanson. Ça serait pas formalisé pareil. Là, j'ai l'impression, enfin, il y a un enjeu idéologique derrière qui est très très fort, qui fait qu'il y a des espèces de postures cristallisées. Sûrement, enfin, je connais pas bien le rap, mais je suis pas sûre que ça soit pareil, tu vois, avec le rap. Je pense que le punk, justement, à cause de la relation aussi au succès, enfin, de choses comme ça, fait que les enjeux sont beaucoup plus forts d'authenticité, de pureté que dans d'autres musiques. Qui autorise le succès et où il y a moins de questions d'authenticité.
Non, c'était juste pour te répondre. Je pense que le rap, c'est justement l'autre musique où c'est le plus présent.
Tu crois? Moi, oui, j'y connais rien. Donc,
ah ouais, ouais, vraiment, ouais.
D'accord.
Ah, jusqu'à la surenchère, quoi.
Ouais. Du, vrai, en rap, plus, avec, du vrai rap.
Ah ouais, mais vraiment. Avec en plus cette dualité permanente d'un succès commercial beaucoup plus fort que dans le punk.
Oui, mais donc ils n'ont aucun problème avec ça, les rappeurs.
Donc des positions encore plus difficiles à défendre, quoi. Et je pense que chaque rappeur qui est arrivé au sommet des ventes se doit absolument de confirmer qu'il est
toujours authentique. Il est hyper authentique.
Ah oui. Ouais.
J'ajouterais que comme c'est une musique noire, il y a cette tradition dans les musiques noires de justement de toujours être le meilleur et de le proclamer dans ses chansons, qu'on est meilleur que l'autre. Mais ça, c'est totalement traditionnel. Mais c'est vrai que ça, avec l'argent qu'il n'y avait pas forcément dans le blues, dans le jazz, etc., l'argent qui arrive fait que ça va jusqu'à la mort, quoi. Parce que...
Dans le rap, par exemple, ceux qui viennent de quartiers ultra populaires et qui ont déménagé vont tout le temps dire dans les interviews « Ah ouais, mais je retourne toujours au quartier voir mes copains ». Comme preuve d'authenticité.
Comme preuve
quoi.
D'authenticité. Ouais.
Moi, je me demandais sur le blouson. J'ai pas bien compris. Est-ce que c'est un blouson d'époque qui est revendu comme tel, ou est-ce que c'est un blouson qui a été artificiellement usé, etc. Voilà. Et est-ce que si c'était un ancien blouson qui serait vendu comme entre guillemets pièce de musée, tu dirais la même chose que le blouson artificiellement usagé, etc., avec des je sais pas, il y a une forme de postmodernisme avant de ce truc qui n'est pas vraiment une reproduction du blouson d'époque, qui est autre chose.
Ouais, je pense qu'il y a les deux choses. Parce qu'à la base, il y a une prise de valeur des sources premières punk du fait de voilà qu'aujourd'hui ça rentre dans les musées, qu'il y a des formes culturelles qui sont reconnues. Par exemple, les fanzines. Il y a encore une époque où si on voulait les acheter à des gens qui les avaient collectionnés, ils les vendaient pour pas grand-chose. Maintenant, on voit que sur des sites, les fanzines ou les vinyles, ils commencent à devenir de plus en plus chers. Donc c'est un premier mouvement. Et puis le deuxième mouvement, c'est qu'après, évidemment, il y a une deuxième phase de commercialisation qui est la création de toutes pièces d'éléments vintage, où c'est de la création d'un truc qui serait authentique. Mais après, sur ce bien-là en particulier, j'ai pris pour illustrer, mais j'ai pas fait une enquête sur le site de vente pour voir si c'était quelque chose qui était créé à ce moment-là, est-ce que c'était porté par quelqu'un du public dans les années 90, donc c'est quand même un petit peu vintage. Ouais.